Conte et raconte le chat beauté. Il était une fois, dans un petit village entouré de collines verdoyantes, un vieux meunier. Toute sa vie, il avait travaillé dur. Et, avant de quitter ce monde, il partagea ses maigres biens entre ses trois fils. À l'aîné, il laissa le moulin. Au second, il offrit son âne. Et au plus jeune, un simple chat, qui n'avait pour seul rôle que d'attraper les souris qui en voulaient au grain.
Tout cela n'est pas très juste, s'exclama le cadet désespéré. Que vais-je faire d'un chat? Mon frère peut moudre du grain, l'autre peut voyager avec l'âne, mais moi, me voici bien lésé dans ce partage.
Et Jacques, accablé par son sort, regardait son chat d'un air distrait, se demandant clairement ce qu'il allait pouvoir faire avec ce félin. Mais le chat l'ayant entendu, il se redressa sur ses pattes arrière, lissa ses moustaches avec un air sérieux et, à la grande stupéfaction de son maître, se mit à parler.
« Mon maître, ne vous désespérez pas ainsi. Procurez-moi un sac et une paire de bottes et je ferai de vous un homme riche et respecté. »
Jacques resta figé, incapable de croire ce qu'il venait d'entendre.
« Mais tu parles ? »
balbutia-t-il en écarquillant les yeux. Le chat lui adressa un regard malicieux, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde.
« Bien sûr que je parle, » répondit-il avec un petit air de fierté. « Maintenant, écoutez-moi. Je sais ce que je fais. Faites-moi simplement confiance et vous ne le regretterez pas. »
Jacques, toujours sous le choc, se frotta les yeux pour s'assurer qu'il ne rêvait pas.
« Je dois être fou, mais après tout, qu'ai-je à perdre ?»
murmura-t-il plus pour lui-même que pour le chat. Avec ses dernières pièces, il fit donc fabriquer une paire de bottes élégantes pour le félin et lui donna également un sac de solide toile de jute. Le chat, très satisfait, prit le tout et s'en alla aussitôt. Ce chat n'était pas un novice dans l'art de la chasse, et il se mit rapidement à l'œuvre. Après des années passées à traquer les souris dans les moindres recoins, il possédait une agilité et une ruse remarquables. Et bientôt, il repéra un lapin en train de grignoter au pied d'un buisson. D'un bond, il fut sur lui, l'attrapa et le fourra dans le sac. Puis il ajusta ses bottes et se rendit au palais royal, où il se présenta fièrement devant le roi. Il fit une révérence impeccable en tout point et déclara
« Sire, veuillez accepter ce modeste présent de la part de mon maître, le marquis de Carabas. »
Le roi, curieux de connaître ce généreux marquis dont il n'avait jamais entendu parler, accepta le lapin avec plaisir et remercia le chat. Et ainsi, chaque jour, le chat beauté, car c'est ainsi qu'on l'appelait désormais à la cour, ramenait au roi des lièvres, des perdrix, des pigeons ramiers, des faisans, des canards, bref, toutes sortes de petits gibiers attrapés par ses soins. Et à chaque offrande, il répétait au roi « Ces présents viennent de la part de mon maître, le marquis de Carabas. » Le roi, charmé par cette générosité, ne tarissait pas d'éloges sur ce mystérieux marquis. Et la princesse, sa fille, dont la beauté était connue de tout le royaume, écoutait souvent ses récits avec un sourire intrigué. Un jour, en sortant du château, le chat apprit que le roi et la princesse se promenaient en carrosse près de la rivière. Il courut chez Jacques et lui dit
« Mon maître, faites exactement ce que je vous dis. » « Allez vous baigner dans la rivière et votre fortune est faite. »
Jacques, bien qu'un peu perplexe, obéit. Tandis qu'il se baignait, le chat se saisit de ses vêtements et les cacha derrière un buisson. Puis il courut vers le carrosse royal en criant «
« Au secours ! Au secours ! Mon maître, le marquis de Carabas, est en danger !»
Le roi, intrigué par cette agitation, et se souvenant de tous les présents du dit marquis, ordonna qu'on arrête le carrosse.
« Que se passe-t-il » demanda-t-il.
« Mon maître, le marquis de Carabas, a été attaqué, et ses vêtements lui ont été dérobés !»
affirma le chat. Alors, le roi ordonna à ses serviteurs d'apporter de riches vêtements à ce marquis en détresse. Et quand Jacques sortit de l'eau, vêtu d'un pourpoint de soie et de bottes resplendissantes, il avait l'air d'un vrai marquis. La princesse le regarda avec admiration. Et Jacques, qui n'était pas insensible à son charme, s'inclina avec une élégance qu'il ne se connaissait pas. Le roi invita alors le prétendu marquis à monter dans le carrosse. Jacques, un peu intimidé, mais suivant les instructions du chat, accepta avec gratitude. Le carrosse s'ébranla et se remit en route. Alors qu'il poursuivait son chemin, le chat se mit à courir à toute vitesse afin de le précéder à travers champs et villages. Sur son chemin, il croisa des paysans en train de faucher du blé. Il leur cria « Si le roi vous demande à qui appartiennent ces terres, répondez que c'est au marquis de Carabas. Sinon, je vous tranche la gorge avec ma griffe la plus acérée. » Les paysans, impressionnés par l'air autoritaire du chat et par sa menace, promirent d'obéir. Bientôt, le carrosse arriva, et le roi, lorsqu'il demanda qui possédait ces terres, s'entendit répondre qu'elles appartenaient au marquis de Carabas. Le roi fut très impressionné par ces terres que possédait le marquis. Il le fut plus encore au village suivant, quand on lui dit que ce village appartenait également au marquis de Carabas. Et ainsi de suite, à chaque village, à chaque champ, les paysans expliquaient au roi que tout cela appartenait au marquis de Carabas. Bien sûr, le chaboté était déjà passé par là, et de promesses en menaces, il avait convaincu toute la contrée de se déclarer appartenant au marquis de Carabas. Et tandis que le carrosse royal avançait sur un chemin bordé de champs dorés et de prairies verdoyantes, tandis que le roi admirait les terres qu'il croyait appartenir au marquis de Carabas, le chaboté, lui, continuait à courir plus vite que le vent, son esprit vif élaborant la dernière étape de son plan. Car voyez-vous, ces terres que le roi contemplait n'appartenaient naturellement pas au marquis de Carabas. Elles faisaient en réalité partie du domaine d'un ogre, un être terrible, connu pour sa richesse, sa méchanceté et auquel les paysans prêtaient des pouvoirs magiques.
« Il peut se transformer en ce qu'il veut !» affirmait l'un en tremblant. « Et d'un coup de poing, il peut faire tomber un mur, car sa force est surhumaine !»
ajoutait un autre, guère plus rassuré. Le chaboté ne craignait rien. Cet ogre terrible était justement la dernière partie de son plan. Il se rendit donc au château de l'ogre. Avec ses bottes bien cirées et son pelage lustré, il se présenta à la porte comme un invité important, et on l'introduisit auprès de l'ogre. C'était un être immense, et le trône sur lequel il siégeait était haut comme une armoire. Le chaboté s'inclina poliment.
« Monseigneur, je viens solliciter votre sagesse pour une affaire de la plus haute importance. »
Comme nombre de grands de ce monde, l'ogre était aussi très vaniteux. Il apprécia de voir reconnue sa prétendue sagesse. Et il encouragea donc le chat à continuer.
« Parle !» dit-il. « Je vais faire mon possible pour t'aider. »
Le chaboté poursuivit.
« Les villageois affirment que votre magie est usée et que vous ne pouvez plus vous transformer à volonté. J'ai bien essayé de les détromper, mais ils refusent de me croire. »
Furieux, l'ogre répondit.
« Ces manants osent douter de moi ! Bien sûr que je peux encore me transformer. Regarde !»
Et dans un éclair aveuglant, il se transforma en un lion gigantesque. Sa crinière dorée semblait embraser la pièce, et son rugissement fit trembler les murs du château. Le chaboté, bien qu'il s'attendît à pareille transformation, joua son rôle à la perfection et bondit en arrière, simulant une peur panique.
« Monseigneur, c'est très impressionnant. »«
N'est-ce pas ?»
s'enorgueillit l'ogre.
Cependant, parmi les paysans qui doutaient de vos pouvoirs, il en est une partie qui acceptait le fait que vous puissiez vous transformer, mais il pensait que vous étiez incapable de vous transformer en un petit animal. À cela, je n'ai su quoi répondre, car, assurément, vu votre taille, il vous est forcément plus difficile de vous transformer en un petit animal. Par exemple, grand et fort comme vous êtes, je doute fort que vous puissiez vous transformer en une souris.
« Tu en doutes ?»
rugit l'ogre. Et dans un flash, il se transforma en une petite souris grise. Le chaboté n'hésita pas une seconde. Il bondit sur la souris, l'attrapa d'un coup de patte, et avant que la créature ne puisse reprendre sa forme originelle, il l'avala d'un trait. L'ogre était vaincu. Le château et toutes les richesses qu'il contenait appartenaient désormais au chaboté et à son maître. Notre rusé félin se précipita donc à l'entrée du château et accueillit le carrosse royal qui arrivait à point nommé. Lorsque le roi vit le château, il ouvrit de grands yeux.
« Quel endroit magnifique !»
s'exclama-t-il. Le chaboté s'inclina profondément.
« Bienvenue dans le château de mon maître, le marquis de Carabas, sire. Veuillez entrer et profiter de l'hospitalité qu'il vous offre. »
Jacques, qui n'en croyait pas ses yeux, joua le jeu avec autant de grâce qu'il le pouvait. Le roi, impressionné par tant de faste, se disait que ce jeune homme serait un gendre idéal. Et quant à la princesse, elle ne détachait plus ses yeux du jeune marquis, dont la gentillesse et le charme l'avaient conquise. Le banquet qui suivit fut somptueux. Grâce au trésor accumulé par l'ogre, le chaboté put organiser un festin digne des plus grands rois. Il veillait à tout, donnant des ordres aux serviteurs du château comme s'il y avait toujours vécu. Les mets étaient exquis, les coupes débordaient de vin et les rires résonnaient dans la grande salle. À la fin du repas, le roi se tourna vers Jacques avec un sourire bienveillant.
« Marquis, vos terres sont prospères, votre château magnifique et votre générosité sans égale. Mais il manque encore une chose à votre bonheur, une épouse. Accepteriez-vous d'épouser ma fille ?»
Jacques, bien qu'intimidé par cette proposition royale, accepta avec un large sourire, car lui aussi était tombé sous le charme de la princesse. Et celle-ci, ravie, donna son consentement sans hésiter. Le mariage fut célébré en grande pompe. Le roi, enchanté d'avoir un gendre aussi respectable, fit de Jacques le gouverneur de toutes les provinces environnantes. Et le jeune homme, qui n'était rien de plus qu'un meunier quelques semaines auparavant, devint ainsi un homme riche et puissant. Et le chaboté, que devint-il ? Ne vous inquiétez pas pour lui. Notre héros fut comblé d'honneur et vécut comme un prince dans le château. Et jamais il ne manqua de lait ni de coussin moelleux pour se reposer.
Retrouvez Contes et Racontes sur YouTube et en podcast. Contes et Racontes, préparez votre enfant à la lecture. Des histoires sans illustrations pour faire travailler son imagination et un vocabulaire soigné pour apprendre des mots chaque jour.